Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Viviane Lipskier, vous la connaissez, c'est la fondatrice de Brand Alchemy, elle est l'experte des NVB en France et accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer. Et elle accompagne aussi, ou elle coach des jeunes entrepreneurs ou des porteurs de projets dans le lancement de leur marque. Et elle est l'autrice du livre, du best-seller DNVB, Les surdoués du commerce digital. Et ça me fait très, très plaisir de la revoir et de la recevoir à nouveau sur ce podcast. Parce que le dernier épisode qu'on a tourné ensemble, c'était en juillet dernier, c'était juste avant mon mariage. Et là, on est le 3 janvier, c'est la nouvelle année et on va parler des tendances pour 2022. Et donc, je vais arrêter de discuter, de parler. Je vais te dire bonjour quand même, Viviane. Salut Viviane, je te souhaite une très belle année 2022 pour commencer.
Salut Adrien, je suis trop contente de t'entendre et très très bonne année. Et j'adore l'idée qu'on se retrouve pour des grands moments de la vie, exactement, que sont les mariages et
la nouvelle année.
Fêter la nouvelle année et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas Adrien?
N'est-ce pas? On se parle dans 6 mois et il y aura peut-être un nouvel événement à annoncer. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on parle des tendances 2022. Mais peut-être pour introduire les tendances 2022, c'est pourquoi c'est important de suivre ce sujet? Pourquoi tout le monde sort les tendances 2022? Et est-ce qu'on doit tous les écouter, les regarder, être sensible à ce genre de choses ou pas?
Alors, vaste question et on va essayer d'y répondre. En effet, tu as tout à fait raison, Adrien, c'est vrai que regarder et accueillir les tendances, j'ai envie de te dire, à bras ouverts comme cette nouvelle année, c'est toujours une bonne idée. Alors, quand je parle de tendances, souvent on confond les tendances avec les analyses de marché ou qui nous donnent les grandes orientations sectorielles ou les études de conso que tu peux faire, regarder tes concurrents avant le lancement d'un business. Très très souvent, on s'arrête là, en fait, quand on crée un business, avant de le lancer, et c'est dans le business plan, on va faire l'étude de marché, l'analyse concurrentielle, ce qui est très bien, c'est parfait pour... Mais c'est pas exactement de ça dont je parle, moi, dont j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui, c'est plutôt, en fait, toutes les études qui ont trait à la sociologie, à l'évolution des comportements et des modes de pensée. Et ça, effectivement, c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, de les lire, d'y consacrer du temps ou d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui va y consacrer du temps ou de faire venir des gens qui sont spécialistes des tendances et qui vont vous faire un retour de temps en temps. Alors pourquoi c'est hyper important? En fait, parce que c'est la base de la gestion de l'innovation. En fait, ça va permettre effectivement de faire évoluer toute l'activité de l'entreprise, à la fois l'activité, donc les produits, mais aussi les services, les contenus, et éventuellement aussi de trouver de nouveaux canaux d'acquisition qui sont en phase avec les cibles. Et qu'est-ce que c'est qu'une tendance, en fait? Une tendance, c'est une idée, mais ça peut être aussi une activité, une philosophie, ou même une action. C'est quelque chose qui, une tendance, ça évolue constamment dans le temps. Et donc, c'est hyper important pour que ta marque, en fait, suive les tendances, qu'elle évolue, en fait, qu'elle puisse évoluer dans le temps, qu'elle suive les tendances. Alors, suivre les tendances ne veut pas dire adopter les tendances, ça veut dire les connaître. Mais que ce soit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce soit pour la mode, le design, l'esthétique, tous les sujets dont on parle dans Entreprendre dans la mode, ce sont les gens qui créent les tendances. Et puis après, il y a des analystes. Alors, comment on gère les tendances dans une entreprise ou vous, si vous allez lancer votre business, en fait, la première chose, ça consiste à les identifier. Quelles sont les tendances qui existent ou qui existeront à l'avenir et lesquelles nous concernent. Ensuite, il faut les analyser, une fois qu'on les a identifiées, et faire des projections ou des scénarios possibles. Dans quelle direction une tendance va se développer et quel impact cette tendance peut avoir en général et pour nous. Et ensuite, il faut analyser ses implications pour notre industrie, notre entreprise, et qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que ça va signifier pour nous, et du coup, créer sa feuille de route. Alors, j'imagine que maintenant, tu te dis, ok, mais dans les tendances, c'est un peu comme chez les influenceurs, il y a des méga tendances et il y a des micro tendances. Alors, comment on fait? Non, tu t'es pas dit ça.
Bah si, mais comment on fait, ouais, parce qu'en fait, ouais, des tendances, il y en a des milliards, il faut être, ben, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des micro-tendances, des méga-tendances, des signaux faibles, des signaux beaucoup plus puissants, lesquels j'écoute, lesquels j'ignore, et comment je m'y retrouve là-dedans, ouais, c'est clair.
Alors c'est vrai que les méga-tendances, il y a énormément de on va dire que les méga tendances, on va plutôt avoir des analyses en continu. Les grands analystes, les cabinets de consulting sortent des cahiers de méga tendances à peu près à longueur d'année, alors que les micro tendances, c'est plutôt en fin d'année, c'est plutôt à partir de début décembre jusqu'à fin janvier qu'elles sont publiées. Les méga tendances, la différence, c'est qu'elles se développent sur très long terme, sur plusieurs décennies. Et qu'elles ont des effets qui vont se déclencher sur tous les domaines de la société et de l'économie et dans le monde entier. Donc, par exemple, tu peux lire aujourd'hui sur le site de BlackRock. Donc, BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs. J'en parle souvent ici parce que justement, ils donnent c'est un collecteur de fonds qui donne les grandes tendances de l'entrepreneuriat et de la finance internationale. Et sur son site, sur sa page concernant les méga tendances, justement, il décrit comme des forces puissantes de transformation capables de changer la trajectoire de l'économie mondiale en modifiant les priorités des sociétés, en encourageant l'innovation et redéfinissant les modèles économiques. Les méga tendances ont un impact significatif non seulement sur nos modes de vie, notre consommation, mais aussi sur les politiques des États et les stratégies des entreprises. Détecter le potentiel de changement structurel et investir sans tarder dans les transformations attendues est essentiel. Donc pour eux, voilà comment ils se positionnent. Ils vont chercher les grandes tendances et ils vont se positionner pour investir et changer de manière structurelle la manière dont ils vont investir. Et donc eux, ils ont identifié 5 méga-tendances qui vont façonner notre avenir, qui sont en termes d'innovation, l'innovation technologique, donc la technologie qui sous-tend le progrès. Et donc, dans cette tendance, les appareils connectés à Internet. La deuxième tendance qu'ils font apparaître, c'est les évolutions démographiques et sociales, donc l'allongement de la durée de vie, les modes de vie modernes, qui vont transformer la médecine, les habitudes de consommation. Et puis, une augmentation de 45% de la population mondiale des plus de 60 ans, attendue à l'horizon 2030. Ensuite, une urbanisation rapide, la migration massive vers les villes, qui va exiger de nouveaux modèles économiques et de nouvelles infrastructures. Les 2/3 de la population habiteront en ville en 2050, c'est-à-dire le double de la proportion observée en 1950. Évidemment, les changements climatiques et la pénurie des ressources. Donc, la demande d'un avenir propre et vert qui va impulser les progrès dans des domaines de l'énergie, du développement durable, etc. Et puis, l'émergence, la richesse des pays émergents, avec des nouveaux consommateurs aisés de plus en plus nombreux en Asie et en Afrique, même sur l'ensemble des marchés émergents. Et avoir à l'esprit que les économies qu'on considère aujourd'hui comme actuellement émergentes vont constituer 6 des 7 premières économies mondiales d'ici 2050. Donc, passer devant les économies, nos économies aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en dire plus. Il y a un livre hyper intéressant à lire d'ailleurs sur cette notion de pays émergents et de comment avec l'éducation le nombre d'enfants se réduit et l'économie se développe. Ça s'appelle Factfulness. C'est un livre de Hans Rosling. Je conseille sa lecture pour ce sujet-là. Et donc là, tu vois, tu as des macro-tendances qui sont vraiment très larges et sur lesquelles, en fait, tu te positionnes dès que tu crées ton business, en fait, et qui vont déterminer, en fait, ton modèle économique et ta manière de réfléchir, ta stratégie à très long terme. pour ta marque. Okay. Aujourd'hui, quand tu as créé ta marque, toi, Réuni, tu as évidemment pensé à qu'est-ce que c'est en termes d'innovation, qu'est-ce que c'est en termes de distribution, est-ce que tu te positionnes sur le digital ou pas, qu'est-ce que c'est en termes de... Alors, tu vas pas te positionner sur l'ensemble des aspects, mais en termes de changement climatique et de pénurie des ressources, bien sûr que tu t'es positionné et que tu as construit ta stratégie à long terme là-dessus. Alors, donc là-dessus, là, évidemment, je pense qu'on est quand même bien... il faut avoir un œil sur les macro-tendances, les lire, mais c'est vrai qu'on est bien, on va dire, immergé dans ces macro-tendances un peu. On les voit venir. Alors, l'Internet, le Web.3, par exemple, c'était le grand sujet de l'année. On n'a pas fini d'entendre parler. Voilà, ça fait partie des innovations technologiques. Mais là, aujourd'hui, ce dont on va parler, ce sont les micro-trends, les micro-tendances, parce qu'elles sont plus ponctuelles, elles sont de courte durée. Elles sont pas liées à des changements profonds, mais elles sont liées à des innovations à court terme et des cycles de vie très courts. Mais si on arrive à flairer, attraper ces petits comportements, ensuite on peut avoir des petites idées qui peuvent éventuellement devenir énormes. Donc ces tendances-là, on les trouve souvent dans des trends reports qu'on a. Et là, il y a une série de rapports qui sont sortis. En cascade depuis le début du mois de décembre. Donc, il s'agit du Trends Report Instagram, celui de Pinterest Future, le TikTok Report, celui de Glossy, celui de Dailyline, Wonderman Thompson, WGSN, etc., etc. Donc, ceux dont moi je me suis inspirée pour extraire aujourd'hui quelques tendances dans les différents domaines qui intéressent les auditeurs d'entreprendre dans la mode, pour essayer de comprendre comment justement on peut... les adapter, les faire siennes pour intéresser son public, s'adapter à un nouveau public éventuellement, en tout cas aller chercher peut-être à rayonner un petit peu, à faire grossir sa cible. Et puis, discussion qu'on a souvent, Adrien, comment on fait pour intéresser notre public, qui ne sont pas que des clients, c'est-à-dire qui ne sont pas que payés, qui ne sont pas que dans la relation transactionnelle, et comment être en phase avec eux et avec la manière dont ils évoluent. Alors, c'est ça un peu le sujet.
Excellent, trop bien. Eh bien, vas-y,
ouais. j'ai hâte d'entendre ce que tu vas raconter. Alors, si tu veux bien.
Bien sûr.
Bien sûr. Alors, après 2 ans passés en survêtement, je donne à peu près le... Ça, c'était la tendance Covid, on va dire. Aujourd'hui, on revient à ce qu'on appelle la maximaliste fashion. Donc, plus d'audace dans la mode. La mode devient un support joyeux, optimiste et un grand moyen d'expression de soi. Donc, je pense pas qu'en pyjama ou en survêtement, on s'exprime extrêmement bien, à moins de mettre des t-shirts à message. Donc là, on s'exprime, on montre son état d'esprit. Et en même temps, le mot, en fait, quand même, qui revient très très souvent dans ces tendances et dans les recherches, dans les mots-clés de recherche, puisque, en tout cas pour ce qui concerne les social media, ce sont les tendances qu'on analyse à partir des mots-clés de recherche, c'est la nostalgie. Et parmi ces courants de nostalgie, le grand retour du gothique. Alors, je ne sais pas si tu l'avais perçu, toi. Le gothique, la Dark Academy ou le Globincore. 50% des jeunes adultes disent vouloir s'essayer à ces tendances. Okay. Le gothique, donc ça c'était sur Instagram, mais sur Pinterest, il est partout. Pas que dans la mode, du maquillage à la déco. Dans les recherches qui sont dans les mots-clés de recherche, celui qui sort le plus vite, c'est style business décontracté goth. Donc on va vouloir, pour aller bosser, on va vouloir s'habiller un peu gothique décontracté. Des vêtements gothiques pour bébés aussi, de la décoration de cuisine, voire des pyjamas gothiques. Okay. Alors, il y a aussi en maquillage, bien sûr. Là, le maquillage métal connaît une nouvelle naissance avec il y a une créatrice. Une artiste drag queen qui s'appelle Laure Élysée. Elle dit « La tendance gothique est souvent associée à tort à un look totalement noir. Je pense vraiment que le monde gothique permet d'exprimer tous les aspects de votre personnalité. Vous pouvez adopter un look rouge, smoky, décontracté, oversize ou même cow-boy. Pour moi, le gothique ne me fait pas peur, c'est un style amusant. Donc c'est un style qui devrait devenir un peu plus mainstream en 2022. Tout le monde ne sera pas gothique, mais en tout cas, le maître mot, ça reste quand même la nostalgie, et la nostalgie en particulier, un retour, tu sais, la mode, c'est toujours cyclique, et un retour des tendances des années 90.
Ouais, nos belles années.
Alors là, ouais.
En tout cas, les miennes, je sais pas pour toi.
Qu'est-ce que là ?
Non, je dis en tout cas les miennes, c'était les belles années goth, années 90. Moi, j'étais ado dans ces années-là, c'est pour ça que je dis mes belles années.
Tu avais un style un peu gothique ?
Pas du tout, moi j'étais un rocker, tu sais, j'étais plutôt 90, mais 90, j'étais au collège, c'était plutôt skater, roller, plutôt baggy, etc. J'étais pas trop, je pense que ça arrivait un petit peu plus tard, enfin en tout cas j'étais pas goth du tout.
Du tout, bah là il va falloir essayer, alors ça y est, c'est parti hein.
Mais en tout cas, j'ai des bonnes inspirations. Tu tapes Business Casual Goths sur Pinterest, c'est assez intéressant.
Tu viens de le taper là en même temps ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu trouves ?
Bah, des looks assez darkos pour le coup, du maquillage, des teints un peu blafards, mais c'est pas si perché que ça en fait.
Non, c'est pas si perché. C'est pas si perché. C'est en fait. La différence, c'est que, en fait, on n'a plus l'impression que ce soit réservé justement aux soirées ou aux moments extra, enfin en dehors de la vie professionnelle. Je pense que justement, on va être assez étonné de voir la génération un peu plus jeune que la nôtre, peut-être, assumer complètement à la fois donc ce style goth et à la fois donc un style nostalgique qui a plus rapport avec on va dire le survitaminé. Donc là, en fait, tu vois, tu as des recherches sur TikTok, le hashtag des années 90, 280 millions de vues, tenue survitaminée et criarde, tonnes de vues. Donc on cherche du arc-en-ciel, du fuchsia, du bleu électrique, des tenues brillantes aussi.
Ok.
Et alors, ce que nous dit le rapport TikTok, c'est que la tendance tenue survitaminée va rencontrer un grand succès en Allemagne particulièrement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là-bas, les gens vont s'habiller dans des couleurs éclatantes pour exprimer leur optimisme. C'est là-bas qu'il y a le plus de recherches pour des tenues fuchsia, des robes vert émeraude et des chaussures roses.
Énorme.
Oui, ça peut sembler anecdotique, mais n'empêche que si vous voulez préparer vos feeds et pouvoir recruter vos mannequins, recruter vos looks, etc., je ne dis pas qu'il faille chercher une... c'est tout le contraire, en fait, de ne pas rentrer dans une espèce de mainstream, flat, et de ne plus pouvoir ressortir. N'empêche qu'il vaut mieux s'y préparer quand même. Et là où ça fait sens pour vous, essayez de voir comment vous pouvez interpréter ces tendances.
Oui, c'est ça. C'est le bon mot. C'est ton interprétation du style goth, quoi.
Ouais, exactement. Et en tout cas, où s'en amuser, où... je pense que sur TikTok, ça va être très, très drôle. Très, très drôle. Alors, une autre grande tendance, et celle-ci, elle est constatée... pas que sur les réseaux sociaux, elle est constatée aussi par les ventes, c'est que les hommes, en fait, sont de plus en plus dans le game de la mode, qui font de plus en plus de shopping et qu'ils arrivent à la fois sur Pinterest et sur les autres réseaux sociaux avec une idée forte, c'est que l'icône de mode pour les hommes, c'est l'athlète. Donc, c'est amusant, mais en fait, associé à la recherche homme collier de perles, qui est une tendance qui a augmenté, qui a été multipliée par 7 l'année dernière. En fait, on s'est rendu compte que cette recherche était liée à un athlète des joueurs d'Atlanta, des Braves d'Atlanta, qui portait régulièrement cet accessoire. Donc, en fait, il y a vraiment une corrélation entre le fait, je pense, l'athlète va être peut-être associé à une masculinité traditionnelle et donc peut se permettre de porter des accessoires, d'être un peu plus modeux, entre guillemets, ou d'être une caution, tout simplement une caution mode. Donc ça, c'est aussi, je trouve, très intéressant. Peut-être aussi lié à un certain nombre de valeurs, le fait de recruter ces icônes mode hommes parmi les athlètes.
Ok.
On s'attend à un bond en avant de la seconde main en ligne, Depop, Poshmark, Vinted. 27% des ados, jeunes adultes veulent faire leur shopping directement depuis en ligne sur des plateformes de seconde main depuis les social media.
Ok.
Et ils veulent, ils recherchent à être, donc pour les, je parle toujours des hommes, hein, des jeunes hommes, ils cherchent beaucoup, être beaucoup plus éduqués, à apprendre à propos des vêtements qu'ils vont porter et à ce que les pièces soient disséquées avant de les acheter. Ils ont vraiment envie de savoir, justement, si c'est une pièce de seconde main, quelle est son histoire, si c'est une pièce de style, d'où vient son style. Est-ce que c'est un peu comme dans Le Diable s'habille en Prada, tu sais, quand on t'explique que ton pull bleu Klein vient des défilés et qu'il n'a pas été inventé pour la fast fashion. Donc je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire là-dessus. Ça y est, les gens sont prêts. Tu sais, à un moment, on se demandait si on ne faisait pas tout ça pour rien. Mmh. Donc, c'est très bien parce que, en termes de référencement, des fiches de produits développées, c'est bien aussi. Mmh. Donc, voilà à quoi ça peut servir, par exemple, de regarder les tendances. Alors, sur les bijoux, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Si ce n'est pour dire que la grande tendance, ce sera de se parer de la tête aux pieds avec des bijoux qui sont très originaux. Okay. J'ai découvert les bijoux dentaires, la pédicure strass, les piercings d'oreilles, évidemment, etc., etc. Donc, et puis, le maquillage des yeux avec des cristaux, que tu as sans doute dû voir.
Oui.
Crystallize. Donc, ça aussi... ça va sortir aujourd'hui, je pense, des réseaux sociaux pour se voir dans la rue.
Trop bien. Crystallize.
Ouais. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, du point de vue... Alors, beauté maintenant. Sortons de la mode et parlons un peu beauté.
Okay.
Justement, l'idée, c'est que certains looks, du coup, que tu vois, qu'on aurait pu penser plutôt Halloween, dans la continuité de ces looks-là très, très audacieux, voire fantaisiste, ben en fait, vont devenir un look de tous les jours. Donc, tu as une analyse d'une marque, d'une boîte qui analyse que les tendances de beauté, qui s'appelle Spate, qui dit ça, que maintenant, en fait, on va avoir des choses hyper créatives, et puis des produits, des looks qui vont être total look, tu vois, de la tête aux pieds. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut voir déjà je pense que l'influenceur number one, l'influenceuse number one de l'année dernière et de l'année prochaine, tu devines qui c'est ?
Non.
On dit que c'est une auteure, compositrice, interprète. Elle est toute jeune. On dit parfois que c'est la petite baby Lady Gaga.
Ah, c'est Dua Lipa ?
Billie Eilish.
Ok, non.
Ouais. Donc 94 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Et elle a lancé cette année son parfum, son premier parfum.
Ok.
Et c'est quelqu'un c'est une personnalité qui utilise vraiment différents looks pour représenter les facettes de sa personnalité. Elle a eu les cheveux teints en vert fluo et noir. Elle met des grands t-shirts, mais en même temps, tu peux l'avoir en bleu blond platine avec une robe de bal, etc. Donc elle joue beaucoup sur ces deux facettes en fait, total look, et jouer énormément avec ses looks. En prolongement aussi, le maquillage pour ongles, alors je sais même plus comment le dire, nail art. Ouais. Alors cette année, ça va être là, une agence de voyage, j'ai envie de te dire, et presque une agence de voyage galactique, parce que la grande tendance en fait, c'est de se peindre des tableaux sur les ongles, et si possible, le nail art galaxy. Voilà, donc c'est une tendance très prisée des millennials. Par exemple, tu as une influenceuse qui s'appelle Atas Rodriguez, T-A-T-H-S, Rodriguez avec un S au bout, qui se font les ongles des bleus galaxies, des ongles terracotta désert, des ongles sirène. C'est le Brésil qui est en tête des recherches. Tête de pont des recherches, mais c'est quelque chose, on va avoir des très des miniatures sur les ongles. Et trop sinon, bien. Côté maquillage et beauté, évidemment, le naturel reste avec pendant tant qu'on aura Covid, je pense, On aura la clean beauty sera une grande, grande, toujours dans la tendance. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une personne sur trois est intéressée pour en apprendre plus, avoir des infos sur la clean beauty et le maquillage. Donc là aussi, on a, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a des un public, je parle encore une fois pas de consommateurs, mais je parle de public qui ont de plus envie d'apprendre, en plus envie d'apprendre, auprès de qui on peut faire de la pédagogie, qui ont envie de la recevoir, qui sont prêts en fait à changer leur mode de vie et les produits qu'ils utilisent. Donc ça, c'est vraiment vraiment intéressant pour toutes les marques. Évidemment, tous les soins à base de plantes, les maquillages vegan, etc. Mais aussi comment utiliser moins de produits, donc tout ce qui est skin minimaliste. On va voir arriver aussi une tendance qui est tout ce qui est autour de la baignade sauvage, ou des spas en plein air et des thérapies traditionnelles. Et tu vas voir, c'est très lié aussi avec, tout à l'heure on va parler du care, donc c'est très lié. Et puis tous les produits sans eau, ce qu'on appelle waterless. Donc ça c'est, okay. On n'en a pas vu encore énormément. C'est différent du solide, hein. C'est les produits qui sont constitués avec de l'eau.
Ok, très bien.
Alors, du point de vue du cheveu, maintenant, on a une vraie innovation. Alors, il n'y a pas de marque française encore qui se soit lancée là-dessus. Mais c'est vrai que le cheveu, c'est une catégorie que je trouve qui stagne pas mal. Et en fait, aujourd'hui, il y a certaines marques dans le monde qui se lancent sur le soin du cuir chevelu, figure-toi, et qui traite le cuir chevelu exactement comme la peau, comme le visage. Donc c'est équivalent à des soins de peau. Donc tu as une série de marques qui vont lancer à côté de leur traitement capillaire, par exemple des hydratants pour le cuir chevelu à l'acide hyaluronique. Tu as une marque de soins de peau qui s'appelle Augustus Bader, c'est une marque de luxe, qui a lancé sa ligne de soins de cuir chevelu et de cheveux, mais vraiment orienté sur les sérums, les masques capillaires, etc. Donc c'est de nouveaux produits, une nouvelle catégorie de produits. Il faudra suivre ça, c'est intéressant. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours de me masser beaucoup le cuir chevelu, que c'était... quand tu fais le shampoing ou de brosser bien les cheveux en massant bien le cuir chevelu, mais ce sont des pratiques qui ont un peu disparu. Bah, les voilà de retour.
Ok, très bien.
Bon, ça c'était le côté super fun et un petit peu léger. Passons au shopping. Qu'est-ce qui va se passer en matière de shopping et de retail l'année prochaine? Alors, évidemment, c'est le grand retour de l'expérience retail, hein, même si le shopping va rester roi et il n'y a pas de raison que ça diminue. Les habitudes sont prises maintenant et les gens se sont fait au e-commerce, donc le e-commerce va rester roi. Mais quand même, l'expérience in real life, comme on dit, va revenir et on espère qu'on ne sera pas tous. Enfin, qu'on va pouvoir en profiter. Ce qu'on a vu, c'est le grand retour des pop-up. Des pop-up, mais très originaux. Et des pop-up, surtout, dans la rue. C'est-à-dire que ce n'est pas des pop-up dans des concept stores ou des lieux qu'on loue pour l'occasion. Mais justement, en raison de la pandémie, ce sont des pop-up qui sont présentés sous forme de kiosques, sous forme de caravanes, de truck food, enfin, etc. En fait, on prend l'espace public, on occupe l'espace public avec une marque. Et c'est par exemple ce qu'a fait Deciem, au début du mois de décembre. À Los Angeles, en fait, ils ont créé des kiosques à journaux dans lesquels ils ont mis leurs produits, et ils se sont associés d'ailleurs aux médias d'information positive Good Good Good, et ils ont pour créer un journal de marque et le distribuer dans la rue.
Ok, comment s'écrit Deciem?
Deciem, D-E-C-I-E-M, The Ordinary.
D'accord.
Une marque de beauté, une DNVB de produits de beauté qui est d'ailleurs, j'en ai parlé, je pense que j'en parle dans mon bouquin, qui est très intéressante parce que en fait c'était la première à dire qu'ils allaient vendre les principes actifs sans les mélanger et à les acheter en gros et donc à pouvoir les vendre à des prix très abordables et ne pas mélanger plus de 10 actifs de manière à avoir des inkeys très courts, donc des listes de produits très courts. Donc c'est une marque extrêmement intéressante à regarder. Je peux te citer aussi une autre marque de beauté qui s'appelle Clean Beauty qui s'appelle Pacifica. C'est pareil qui a fait tourner des caravanes, des Airstream, tu sais les gros caravanes en métal. Là. Ouais. Donc là ils l'ont peinte en rose et puis ils ont mis des oreilles de lapin géantes. Ils offraient des barbes à papa gratuites, des boissons CBD. Et présenter leur nouveauté. Donc, on devrait voir pas mal de trucks comme ça cette année. Je ne sais pas pourquoi en France, on en voit si peu. Peut-être que c'est lié à la réglementation dans les grandes villes, où les food trucks ne peuvent pas s'installer où ils veulent. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique. À Londres, la dernière fois que j'y suis allée, j'en ai vu pas mal dans la city. Ça permet effectivement de partir à la rencontre des clients. Ce qui est plutôt très 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 sympa. Ouais. Et il y en a eu pas mal de reprises comme ça, de contacts avec le public dehors, à l'extérieur, ou dans des parcs, etc. Bon, l'autre grande tendance, évidemment, c'est le live commerce qui commence à être mature. Je pense que toutes les marques vont y être très très incitées l'année prochaine, enfin cette année qui commence. Pour preuve, TikTok en soi a organisé son premier événement de shopping en direct le mois de décembre dans l'application. Twitter a organisé des événements avec Walmart, pareil, Cyber Deal Sunday. Pinterest, qui met à jour son offre sur Pinterest TV. Donc on va y être fortement incité par les social media. Et c'est vrai que c'est facilité aujourd'hui par des apps qu'on va pouvoir plugger directement sur les sites marchands. Et qui vont permettre de créer des nouveaux espaces directs to consumer dans lesquels il va falloir inventer justement quel mode de connexion on veut avoir avec ses clients dans ce live, mais ça peut prendre des formes très très variées et je pense qu'on en reparlera plus spécifiquement. Enfin, tout moi, je suis très excitée. Avant, je n'étais pas convaincue par les grandes messes chinoises avec le néo Pierre Belmar, tu vois, le néo. ça m'excitait pas trop. Autant, je pense que non, il y a des possibilités de créer un contexte très sympa pour les marques là-dessus.
Et aujourd'hui, tu as vu des gens en France, en Europe, qui avaient qui étaient bons là-dessus, sur ces sujets-là?
Alors, les grands acteurs du retail, comme Leroy Merlin, se sont lancés. Et ça marche très bien, c'est très efficace, tu vois, parce que tu peux très bien faire comme une émission de jardinage, en fait, et que tout soit à vendre dans l'émission de jardinage, en fait, sans même avoir à dire, faire la promotion d'un article ou d'un autre, en fait. C'est ça que j'appelle contextualiser. Mmh. Et dans ce sens-là, je trouve ça très efficace. Et comme le prix de ces apps a beaucoup baissé, en fait, aujourd'hui, tu peux trouver une app pour $500 par mois qui va te permettre de transformer en plus ton live shopping en vidéo courte pour tes réseaux sociaux.
Ouais.
Du coup, c'est vraiment un contenu. Au-delà de la vente, c'est un contenu, c'est un moment d'échange avec tes clients. Et c'est encore une fois, ce qui est différent, c'est que tu peux faire du live shopping sur Instagram, ça c'est sûr. Mmh. Et quand tu le fais ça, c'est open à tout le public. Mais tu peux aussi inviter ton public sur ton site à une heure précise. Auquel cas, ça sera en live aussi sur les réseaux sociaux. Mais à ce moment-là, tu es propriétaire de ton contenu. Et ça, c'est vraiment différent. C'est sur ton espace à toi. Ça se passe sur ton site.
Très bien. Excellent. Et tu as des noms d'app à conseiller?
Alors écoute, je veux pas faire ça, je vais écrire un Oculus. Il y a un Oculus que j'ai écrit qui est sur ce sujet précisément, mais j'ai pas trop envie de conseiller des apps parce que je veux pas faire la promo, tu vois. Après, déjà, je m'exposerai à recevoir tous les gens qui conçoivent des apps et à être saturé, et aussi parce que je pense que, tu sais, bon, il y a des gens bien plus compétents que moi qui peuvent dans des comparatifs, etc. Donc je préfère pas en donner, mais c'est quand même pas très difficile à trouver aujourd'hui. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux, ce qu'observe tous les grands cahiers de tendance aujourd'hui, toutes les analyses, évidemment, c'est la transformation en fait des plateformes de jeux en social media. Ça, évidemment, personne n'a pu passer à côté. Et je pense d'autant plus que on parle de métaverse et que c'est un des sujets connexes. Et que, en fait, tous les comportements qu'on pensait obsolètes sur les médias traditionnels, sur la télé pour ne pas la nommer, en fait, sont en train de se reproduire quasiment sur les plateformes de jeux. Dans Fortnite, par exemple, ou sur Twitch. D'ailleurs, il y a une étude qui a été commandée par TikTok. C'est commandé par TikTok, hein, mais avec toute la réserve que... du coup qu'on se garde, mais elles disent que parmi les gens qui ont téléchargé l'application TikTok, 35% des utilisateurs disent regarder moins la télévision et les services de streaming. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des mini-séries qui commencent à émerger aussi sur TikTok, comme Skate Red, qui est une série TikTok australienne, La Mascarade, une série Netflix française pour IGTV, 4 épisodes de 4 minutes, et pour laquelle les utilisateurs ont voté pour les personnages et les récits via les stories. Donc on a encore un changement, tu vois, de lieu où se passe l'entertainment. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que, et ça, il faut vraiment en tenir compte en tant que marque, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux se transforment en écran pour de la consommation médiatique. On le savait un petit peu. On avait commencé à le voir, mais ça va vraiment devenir le premier écran dans un usage qu'on pourrait dire... c'est plus le deuxième écran, en fait, mais ça va devenir le premier écran. Et d'ailleurs, un des rapports soulignait, je ne sais plus lequel, mais soulignait qu'il y avait peu de chances pour que Squid Game soit devenu le grand succès de Netflix s'il n'y avait pas eu tous les mèmes sur les réseaux sociaux qui l'avaient accompagné. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les modes très très perturbant pour moi, qui vient de la télévision, mais et en même temps vraiment une grosse inversion, c'est la manière dont effectivement, je ne sais pas si tu avais suivi ce qui s'était passé dans Twitch et YouTube sur Minecraft, qui est devenu comme une telenovela. C'est un nouveau format de narration, très immersif, qui est né des jeux vidéo, et que tu peux, en fait, où le meneur de jeu va convier des joueurs de son entourage, donc multijoueurs, à vivre le jeu comme si c'était un feuilleton. Okay. Donc chacun est son propre personnage. Et du coup, ça devient une histoire à plusieurs niveaux que les spectateurs peuvent regarder. À mi-chemin entre Game of Thrones, le théâtre je sais pas comment te le décrire, mais le plus impressionnant, ça a été Dream SMP, qui est une partie de Minecraft qui a été jouée sur un serveur privé par des joueurs très connus et qui a généré 60 millions d'abonnés pour des milliards de vues sur YouTube. Donc c'est vraiment c'est un passage vraiment vraiment du social du média de masse, en fait, quand ces plateformes deviennent des médias de masse à part entière et où ce sont les communautés en fait qui décident de ce qu'elles veulent voir et de la narration et qui s'affranchissent complètement et des règles, de tout ce qu'on avait connu en fait. Et c'est les téléspectateurs qui finalement votent en regardant, en commentant, etc., etc. Donc on sort complètement de ce qu'on a toujours connu comme média et comme manière de faire du contenu.
Trop bien.
D'ailleurs, et certaines marques ont commencé à vouloir s'immiscer là-dedans. Par exemple, KFC, la fameuse marque de poulet. Qui est partout, toujours dans toutes les tendances, tout comme McDo en général, qui qui s'est infiltré dans un feuilleton virtuel, donc c'est comme ça qu'on les appelle, hein, dans Grand Theft Auto, diffusé sur Twitch, et dans lequel ils ont préempté, donc c'est un jeu multijoueur, qui est très très à la mode en Espagne en ce moment, et ils ont décroché le rôle du colonel Sanders pour jouer dans ce jeu. Très très content. Plus sérieusement.
Trop cool. Ouais.
Plus sérieusement, ça ne t'a pas échappé que la plupart des gens, en tout cas les jeunes adultes, ont envie de redéfinir la manière dont ils travaillent et la manière dont ils sont éduqués aujourd'hui. Alors, vraiment, ça c'est aussi un enseignement, un virement majeur du Covid, depuis le Covid. J'imagine pas que 63% des jeunes adultes déclarent qu'ils ont réévalué leur but professionnel depuis 2 ans. 71% sont prêts à changer de job et gagner moins d'argent s'ils trouvent plus de sens dans une nouvelle vie pro. Et chacun repense la notion du succès. En parallèle, les plus jeunes pensent que la meilleure éducation provient de la vraie vie et considèrent sérieusement le coût des études face à ça. Donc, ce qu'on a observé, c'est que les réseaux sociaux ont gagné du terrain en tant qu'outil éducatif et qu'on n'en est qu'au début. Chacun est en recherche d'informations sur des plateformes comme Reddit, YouTube ou Vsauce, qui ont vraiment attiré des millions d'abonnés et vraiment dans le but d'apprendre, d'acquérir des connaissances pratiques, etc. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que ce soit complètement prêt, c'est-à-dire que les contenus n'ont pas été forcément créés pour être des parcours d'apprentissage complets, mais justement, ça ouvre de nouvelles possibilités pour tout un chacun d'ouvrir, justement, moi, je trouve ça vraiment passionnant, en fait, que toutes les fonctions éducatives soient intégrées dans l'espace numérique, et parce que ça permet, entre autres, d'améliorer l'accessibilité de l'éducation pour tous. Et d'ailleurs, en 2023, il y a un campus qui va ouvrir au Kenya, qui s'appelle le campus Kenya KAIST, K-A-I-S-T, qui va ouvrir ses portes près de Nairobi. Et c'est une université où les cours seront donnés dans un monde virtuel immersif pour démocratiser l'outil virtuel. L'outil numérique, pardon. Donc évidemment, ce qu'on va chercher, en fait, il y a un changement d'attitude complet, parce que en fait, on va chercher sur les social media des compétences du quotidien. Donc ça peut être la culture financière, de l'histoire, la maîtrise des langues vivantes, etc. Et vraiment des compétences qu'on n'a pas appris à l'école. Par exemple, tu as un média allemand qui s'appelle Funk, qui enseigne la finance aux femmes de la génération Z. T'as une page Instagram espagnole, Spain Says, qui propose des conseils quotidiens sur les mots, expressions familières, etc. Donc vraiment, c'est des informations très concrètes pour la vie quotidienne. Et puis, l'apprentissage aussi comme loisir. Donc, par exemple, le géant allemand des médias qui a recréé l'histoire de la centenaire de la militante Sophie Scholl, dans une storytelling immersive sur Instagram, en retraçant son histoire comme s'il était une femme de 21 ans aujourd'hui. De la même manière, les jeunes gens vont chercher les plateformes pour se former à l'esthétique, pour se former au design. Parce que Instagram, c'est assez simple comme outil en fait, pour se former et pour créer des contenus percutants. Pareil sur TikTok. Et quand je dis éducation esthétique et design, c'est pas pour parler de beauté ou de produits de cosmétiques, hein. C'est pour parler de comment on crée de l'information design. Donc, oui. Par exemple, At Isodop démystifie l'énergie nucléaire avec des visuels. Où tu as une illustratrice américaine qui s'appelle Risa Bobiza, qui rend le discours féministe accessible via son art. Donc c'est plutôt ce genre, comment s'intéresser à des questions exigeantes, à des questions d'éducation, au travers d'une certaine esthétique ou de design, etc. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Très bien. Isodop, comment t'écris ?
At ISODOPE.
DOPE, ok. Et l'autre site dont tu parlais,
Risa. RISABO2ESA.
Très bien. Cool.
Ouais. Allez, on passe à la food.
On passe à la food.
Alors, bien sûr, on a tous cuisiné à la maison. C'est pas prêt de s'arrêter.
C'est clair.
Alors, donc on va tester des recettes de plus en plus complexes. Et figure-toi qu'un sixième des personnes déclare un intérêt pour la cuisine moléculaire à la maison ou la mixologie. Là aussi, un grand intérêt pour l'éducation et la pédagogie. On apprend à s'approvisionner localement et sainement. Donc en fait, dans tous les domaines, on voit que l'éducation, la pédagogie, en fait, on peut la faire sur les réseaux sociaux, on peut la faire sur ses propres médias. Il y a une envie et plus on le fera de manière soignée, plus on ira chercher des infos qu'on ne trouve pas ailleurs et plus on aura de chance d'aller trouver de nouvelles communautés qui sont à la recherche de ces informations. Donc là, la grande tendance pour l'année 2022, c'est la recette de grand-mère. Et la recette de grand-mère, pas pour cuisiner, pas par nostalgie forcément, mais aussi comme un moyen de renouer avec ses racines. Donc ça, c'est intéressant aussi, d'avoir ce focus-là, retrouver le savoir-faire de ses ancêtres. Donc ça veut dire qu'on repart sur le chemin, on fait le sens inverse, en fait, pour repartir dans les cuisines d'antan. Et c'est les recettes traditionnelles des quatre coins du monde qui intéressent les gens. Donc, tu as par exemple le créateur culinaire et photographe At Demeals, D-E-M-E-A-L-S, qui s'appelle Wassim Adjazi, qui dit sans les ragoûts bien chauds et les repas réconfortants, ma vie serait bien triste. Cette année, j'ai besoin de recettes traditionnelles. À moi, les cakes au café turc et les chips de mangue. Donc, on peut inviter les gens à revisiter la cuisine du quotidien en explorant les saveurs du monde. Et transformer un poulet rôti, comme il dit, en délicieux plat sud-africain ou philippin. On peut recommander aussi des ustensiles, des équipements traditionnels, etc. Donc ça passe par la cocotte en terre cuite ou les samovars, etc. etc. Et toi qui t'intéresses à l'art de recevoir et à la table, justement, voilà une piste à explorer pour toi pour dresser ta table de manière un peu différente. Mmh. En utilisant les racines de chacun. Et l'autre grande tendance de la food, enfin, il y en a d'autres, hein, mais bon, j'ai sélectionné celle qui m'amusait ou que je trouvais plus sympa, et ben, c'est la poster. Figure-toi que cette année, à partir de cette année, fini le café en forme avec le cœur, tu sais, le petit cœur en mousse.
Ouais, le latte, ouais.
Cette année, on revient au thé. Et pas le bubble tea, non, du vrai thé, mais il peut être au lait fraise, rose pastel. Il peut être dans des petites jarres en forme d'ours. Voilà, et c'est pas la question de boire simplement du thé, c'est renouer avec les traditions, encore une fois, donc on est encore bien dans la nostalgie. Et évidemment, le service à thé va ressortir, le néo-service à thé et la petite collection de sandwichs qui vont avec. Alors moi, je pense que c'est quand même lié à quelques séries de Netflix qui nous ont bien immergés dans, tu vois, dans les séries en costume. Mais c'est vrai qu'on va avoir, tu vois, des nouvelles bouilloires, du linge de table, etc., etc. Donc, Tea Party, c'est l'invitation de l'année. Si vous voulez être, tu vois, si tu veux faire un truc qui marque, ben, t'invites pas à un petit déjeuner, t'invites pas à un brunch, t'invites à une Tea Party.
Une Tea Party, cérémonie du thé.
Voilà, exactement. Alors, rapidement, le bien-être, là où est ce qu'on appelle wellness, quand on sait que ça se développe, évidemment, avec le Covid de manière sidérale. Maintenant, le wellness, ça va bien au-delà même de la santé mentale, en fait. Parce que, on a bien compris que, en fait, tous nos choix ont des effets puissants sur la santé et sur les émotions. Donc, au-delà de la pratique de méditation, les exercices de manifestation, etc., dont on a vraiment été saturé l'année dernière, là, on revient à des activités qui permettent de se connecter aux autres. Donc, des activités créatives, dessin, peinture, musique, journaux intimes, bien sûr, ouverts sur les réseaux sociaux. Donc, on le montre aux uns et aux autres. Mais le prochain grand truc, c'est de dépasser les exercices et d'avoir des activités qui touchent à la maison, qui sera de plus en plus sustainable et éco-friendly. Aussi, ce qu'on note pour cette année, c'est les envies cosmiques. Alors, un attrait grandissant pour l'astrologie. Alors moi, j'ai pas mal de gens que j'accompagne qui sont sur ces business-là ou qui ont dit dans ces univers-là. Donc, les fêtes étoilées, les astres pour inspirer les grands moments, etc. Donc, on voit beaucoup de recherches, d'ailleurs, que ce soit d'anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou mariage ou autre. Baby shower thème soleil, anniversaire thème soleil, fête thème étoile, soirée lune décoration, robe de mariage lune. C'est très significatif. Il y a une créatrice qui fait d'événements à Los Angeles qui n'y est pas forcément pour rien. Elle a dit « Les fêtes étoilées seront à l'honneur cette année, l'astrologie est en pleine vogue et trouvera sa place dans les brunchs à Thèbes et les mariages sous la pleine lune. » Elle s'appelle Mélissa André, en un seul mot.
Très bien, on va regarder ça.
Toujours dans cette tendance de bien-être, ben cette année, on renoue avec l'enfance qui est en nous. Donc tout ce qui est loisir enfantin, même pour les adultes, est déco magique, y compris pour les adultes, y compris les balançoires d'intérieur. La jeunesse est un état d'esprit, n'est-ce pas ? Donc les recherches pour balançoires d'intérieur pour adultes ou idées de chambre à coucher féerique pour adultes, elles existent bien, mais pourquoi pas ? C'est une manière de faire une pause, de bricoler, de faire des bricolages amusants. Ça peut être chic. J'avais vu des images de choses qui étaient quand même assez chic. Hein. C'est pas forcément le château gonflable dans la chambre à coucher. Okay. Donc en fait, on laisse vraiment l'enfant en soi s'exprimer. On peut s'inspirer du conte de Amanda Kingloff. Donc Amanda comme le prénom et King comme le roi et Loff, L-O-2-F. Elle est sur TikTok, on va la trouver sur TikTok, et elle fait les perfect sunset vibes. Ce qui est en fait la recherche là dans cette tendance, c'est l'état émotionnel, la vibe, donc l'atmosphère, le lieu, et communiquer aux autres via ces vibes. Donc on a parlé tout à l'heure du vernis à ongles qui était dans cette même tendance en fait, où on fait des micro tableaux sur ses doigts, etc. Et en fait l'idée là, c'est de dépasser en fait d'être juste soi sur les médias sociaux, mais de faire participer les autres à son état d'être émotionnel. De toute façon, l'émotion, communiquer via les émotions, déjà l'année dernière, c'était hyper important parce que évidemment avec le stress et l'anxiété, il était important que les gens communiquent sur leurs émotions. Mais là maintenant, du coup, on a l'impression qu'il y a quand même un espèce d'apaisement ou de quelque chose de plus plus large, l'éventail est plus large, on va dire, que juste l'angoisse et l'anxiété. En tout cas, ce qu'on veut obtenir, c'est une réponse émotionnelle spécifique et faire participer les autres aux humeurs et aux sentiments et avoir vraiment des interactions. Donc, il y aura aussi tout un tas de filtres qui vont être lancés à droite, à gauche, etc., évidemment, avec et même les mêmes multisensoriels. Je sais pas si tu avais vu ça sur TikTok, c'était la vidéo de Dogface 208 qui écoutait Fleetwood Mac sur son skateboard, une brique de jus au sunspray à la main, qui a été vue presque 13 millions de fois. Okay.
J'ai l'impression parfois d'être coupé du monde, hein. Tout à l'heure tu m'as tué avec la chanteuse aux 93 millions de followers, 98 millions de followers, et là tu me parles d'un nouveau truc.
Bah écoute, j'en suis ravie, je suis là pour ça, je te donne les tendances, je vous évite d'avoir à plonger dedans et à lire, parce que pour faire ce condensé qui est assez dense et qui est assez long, j'ai dû moi-même consulter, je pense, une bonne vingtaine de cahiers de tendance, donc... voilà, si ça fait un petit raccourci, un petit update pour les uns et les autres, c'est tant mieux, c'est là pour ça.
C'est clair.
Et ça ouvre un petit peu, tu vois, comment on peut trouver quand même là-dedans, comment on peut puiser des tonnes d'idées, chacun bien sûr en fonction de ses points de ses objectifs. Mais tu vois, une marque comme Rimowa, par exemple, a bien compris, parce qu'elle elle va exploiter justement, créer des ambiances. Là-dessus, ou une marque comme Lego qui a lancé un album ASMR avec Spotify pour aider les gens à se relaxer, à se détendre, etc. En fait tu as finalement une espèce de convergence des marques, des médias, etc., des créateurs de contenu où finalement tu vois le contenu de marque devient multisensoriel et dépasse un petit peu le côté promotionnel.
Trop bien.
Voilà à peu près. Alors, tu sais, alors je pourrais être intarissable sur les tendances. Je vais peut-être pour finir parler juste de design. Quand même, c'est important. De branding. Ouais. Donc là, c'est plus spécifique. C'est pas toutes les analyses de tendances qui parlent de ça. Hein, c'est pas. Tu trouveras pas ça. Forcément dans les reports de Pinterest ou d'Instagram, mais plus spécifiquement dans des cahiers qui m'intéressent moi, qui sont plus liés au design et au branding. Effectivement, là aussi, on assiste au retour des années 90. Bon, c'est évident, hein, c'est sûr que heureusement qu'on n'est pas schizophrénique au point de vouloir pour s'habiller, être dans les années 70 et pour le branding, être dans les années 2010. Non, tout est bien aligné, tout est bien OK. Donc là aussi, retour aux années 90. Et moi, j'en suis ravie parce que si tu veux, là, j'en avais un peu marre on avait parlé de blending, tu te souviens, de ces tendances un peu fades, des marques un peu fades, qui ont copié les DNVB, justement, américaines, les unes sur les autres, avec des esthétiques très à des 2020, des couleurs pastel, etc. Là, 90, on revient au funky, à des dégradés, à des formes plus funky, à des motifs un peu plus déjantés, des esthétiques un peu plus raves. Enfin, tout ça en accord vraiment avec tout ce qu'on s'est dit de goth, de tout ce qui vient des années 90 et de couleurs. Donc c'est un peu comme si tu avais le grunge qui rencontre Britney Spears, qui rencontre Jack Swing. Jack Swing, ça te parle? Alors, le nu Jack Swing, c'est un genre musical qui est une fusion entre le R&B et le hip-hop et qui a été créé en 1987 par le producteur Teddy Riley avec l'album Make It Last Forever de Keith Sweat. Popularisé grâce à ses premières productions, mais surtout avec son premier groupe Guy qu'il forma avec le chanteur Aaron Hall et Timmy Gatlin. Voilà, donc ça, il faut connaître New Jack Swing.
Ok. Maintenant, on connaît, merci.
Voilà, donc c'est là, je pourrais te donner quelques marques, quelques DNVB justement, qui utilisent aujourd'hui, qui sont lancés récemment et qui sont passés à une esthétique plus 90. Par exemple, tu as une marque de savon pour le corps qui s'appelle Plus, tout simplement. Plus.com, qui produit pas de déchets, qui a une très très belle esthétique dont je te parle. Une DNVB qui fait des macaronis au fromage protéiné, qui s'appelle Goodless. Et dont le logo est un skateboard, tu vois. Tu vois, on y est.
Ok.
etc. Voilà, donc plus moins d'aplats, moins de minimalisme, plus de typo, plus de caractère, plus amusant, moins précieux, qui montre encore une fois qu'on va s'amuser cette année. Pourquoi on veut s'amuser? Eh bien, parce qu'on est quand même dans un monde un petit peu oppressant, on a quand même des urgences.
Ouais.
Avoir de la couleur, ça fait pas de mal. Et voilà. Et je pense que le design et la culture, c'est vraiment les reflets de ce qui se passe, et que les gens veulent vraiment, vraiment ressentir de la joie, et que le design peut les aider justement à sortir de l'impasse, de ce moment un peu
compliqué.
Exactement comme tu dis. Voilà, voilà. Donc en fait. L'intérêt de la nostalgie, puisque c'est un peu le fil conducteur de tout ce que j'ai raconté là, c'est quand même que ça permet de parler à la fois aux jeunes gens qui le découvrent et d'être aussi un fil conducteur pour les anciens qui peuvent en parler et transmettre. Donc les anciens, c'est nous. Hein. Alors moi, évidemment, je suis ancienne, mais toi, tu vois, maintenant, tu rentrais.
Je suis aussi, ouais, bien sûr. Ouais.
Je me souviens, tu es ancien, donc où je l'ai vécu. Donc, comme tout ça est cyclique, du coup, ça permet effectivement de raviver pour plusieurs générations, en tout cas, un fil conducteur commun et de créer du lien là aussi et d'élargir ses cibles là aussi. Voilà pour cette courte et longue analyse de tendance.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas comment je vais pouvoir appliquer tout ça à ma marque,
Faut-il que j'applique tout ça à ma marque? J'en suis pas certain.
Mais en tout cas, ça t'a donné envie de temps en temps regarder les tendances ou t'abonner une ou deux fois par an aux trends. En tout cas, Instagram Trends, Pinterest Trends, etc. C'est gratuit. C'est très intéressant. Ouais. Toutes les grandes plateformes publient leur écoute sociale. Donc, à minimum, je recommande de le lire quand elles le publient.
Trop bien. Cool. Ben, merci beaucoup. Et
avec
encore
plaisir, Adrien.
Bonne année.
Et bonne année encore et bonne année à tous.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.